Principe actif.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
À Conches en Mouche, 95.9.
When we fly from blood clot, Bermuda come out France, cracking up, Bogota. Yeah, hola to all sound guys. Yeah, this is like, we're gonna be nice tonight. Yes, that's how we're blessed. Bogota, you tour the world. Dedicate this one to all boys and girls. Sound boy, never get out of control and this way. Watch how the sound them flip up. Get them shit slit up. Test them comfy, test them catch a dub in them stomach. Big sound, no worry, baby, all a syrup. Girl, them just throw the pussy lip up. Sound them flip up. Get them shit slit up. Test them comfy, test them catch a dub in them stomach. Big sound, no worry.
Merci de rester à l'écoute de RFI, les midis à Paris, 10h en temps universel. Et le journal, c'est avec vous, Karine Bellicha, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une, le Népal n'en finit plus de compter ses morts après la coulée de boue dévastatrice dans l'Himalaya. Il y a plus de 1000 décès décomptés désormais. Restent les milliers de disparus et l'aide aux sinistrés qui ont souvent tout perdu, tentent de s'organiser. Sans grand résultat, Washington met la pression sur Téhéran militairement et économiquement et menace ses partenaires de sanctions. En Irak, il est bien difficile d'imaginer de ne plus commercer avec son voisin. Reportage à Bagdad dans ce journal. Reportage également au Porge, la commune du sud-ouest français ravagée par les feux cet été. La rentrée scolaire aujourd'hui va permettre aux enfants d'évoquer les souvenirs d'évacuation en catastrophe et les traumatismes qui vont avec. Un mur des disparus à Katmandou, dans la capitale népalaise, des familles placardent la photo de leurs proches. Les portraits de Népalais et d'étrangers débordent à l'entrée de l'hôpital. Dernier espoir de les retrouver une semaine après la crue dévastatrice dans l'Himalaya. Alors que la barre des 1000 morts recensés est désormais franchie, incluant les victimes de l'autre côté de la frontière au Tibet, près de 4500 personnes manquent toujours à l'appel. Les recherches se poursuivent pour trouver des éventuels survivants. Les opérations mobilisent les secours, mais aussi de nombreux habitants. Exemple avec ce témoignage d'un journaliste népalais contacté par Nicolas Feldman.
Le jour de la catastrophe, Deepak Koirala se trouve à Katmandou, la capitale. Ce n'est que le lendemain qu'il rejoint sa région et constate l'ampleur des dégâts.
Je me suis rendu dans la zone touchée. 29 de mes voisins étaient sur la route pour Gosai Kunda, un lieu de pèlerinage très populaire. Ils s'y étaient rendus pour prier. C'est là qu'ils ont été pris dans cette immense inondation. Depuis, on est sans nouvelles d'eux. Ils ont tous disparu.
Si le journaliste continue depuis d'écrire quelques articles, de raconter pour les télévisions locales et les radios la catastrophe, il vient aussi désormais en aide comme il le peut à sa région.
Ma mission est de rechercher les corps de mes voisins disparus. Je travaille avec la police et le gouvernement pour retrouver leurs dépouilles. Et je participe aussi aux opérations d'aide dans ma région. Nous envoyons du matériel, de la nourriture, des vêtements et des équipements. On collecte tout ce qu'on peut, car les dégâts sont considérables. Une vingtaine de ponts ont été détruits et près de 40 km de route ont disparu.
Des destructions qui compliquent un peu plus l'arrivée de l'aide et des secours avec des routes et des ponts emportés. Certaines zones restent difficiles, voire impossibles à atteindre.
Téhéran dit qu'il respectera ses engagements si Washington en fait de même, alors que Donald Trump menace de nouveau l'Iran de frapper fort. Posture habituelle des deux côtés après les frappes américaines hier et les répliques iraniennes dans la région. Inédite depuis un mois, un nouveau regain de tension qui inquiète une nouvelle fois les marchés. Les cours du pétrole sont repartis à la hausse. En renforçant déjà les sanctions contre l'Iran, le 25 août dernier, les États-Unis ont mis en garde tous les partenaires commerciaux de Téhéran qui poursuivraient leurs échanges sans adopter de mesures concrètes pour le moment. Mais de toute façon, pour l'Irak, cesser tout commerce avec l'Iran voisin serait quasiment impossible. Reportage à Bagdad de Marie-Charlotte Roupi.
Dans le quartier de Jamila, Bagdad, se trouve le marché marché de gros, des produits alimentaires.
Là, ce sont majoritairement des produits laitiers, irakiens, iraniens, saoudiens et turcs.
Nasser Nasser Abdulrida est négociant. Il craint les retombées de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran. Les sanctions précédentes et la fermeture répétée du détroit d'Ormuz ont déjà fait monter les prix des produits importés. L'Iran restait encore le fournisseur le moins cher.
Le marché irakien dépend à hauteur de 60 à 70% des produits iraniens dans tous les domaines. Alors si les importations de marchandises sont interrompues, nous serons affectés, oui. Les prix sur le marché deviendront anormalement élevés.
En mars 2026, la Chambre de commerce iranienne estimait que l'Irak représentait 50% des exportations de son industrie alimentaire. Alors à Bagdad, les conséquences des sanctions se font forcément ressentir. Ahmed Kadam, comptable dans une entreprise voisine.
Nous échangeons avec eux au sujet des marchandises et ils se plaignent de l'augmentation des prix des matières plastiques, du verre et du sucre. Les prix des marchandises en Iran ne correspondent plus à ceux du marché irakien.
Selon lui, certaines entreprises ont déjà cessé leur importation d'Iran, mais Abu Mohammad, comptable lui aussi, rejette les menaces américaines contre les pays commerçants avec Téhéran.
La coopération entre nous et l'Iran continuera. Transférer de l'argent n'est pas difficile pour nous.
Dans ce contexte, tous restent discrets sur la manière dont ils payent leurs fournisseurs iraniens. Marie-Charles Troupy, Bagdad, RFI.
L'administration Trump tente donc, en plus des frappes, d'asphyxier l'Iran économiquement, mais Téhéran n'est pas isolé pour autant. Le président Massoud Pezeshkian est à Bishkek, au sommet de l'organisation de Shanghai, autour de la Chine et de la Russie, un bloc régional asiatique et eurasiatique qui veut faire contrepoids à l'influence occidentale. Vladimir Poutine va s'entretenir aujourd'hui avec le président iranien. En marge de ce sommet, la Chine, grand importateur de pétrole iranien, a déjà prévenu qu'elle défendrait fermement ses intérêts. Quant au Japon, il envisage de consacrer près de 9 000 milliards de yens l'an prochain à son budget de la défense, près de 50 milliards d'euros, un record pour l'archipel. Tokyo souhaite en particulier doper la place de l'intelligence artificielle dans l'armée dans un contexte, clairfage, d'aggravation des tensions avec ses voisins.
Le Japon répond aux menaces croissantes de la Chine et de la Russie sur ses îles par un niveau de dépenses militaires inédit. Il s'agit d'acquérir des missiles hypersoniques et de généraliser l'usage des drones et de l'IA dans une armée nippone en peine d'effectifs, explique Céline Pajon, chercheuse à l'IFRI.
L'intelligence artificielle comme appui à la prise de décision militaire et puis l'utilisation massive des drones. Ce sont deux capacités sur lesquelles le Japon veut monter en puissance très rapidement. C'est d'autant plus important que dans le contexte japonais, on est face à un problème très fort de recrutement militaire. La démographie est très peu dynamique, donc c'est très difficile pour les Japonais de pouvoir monter en puissance en matière de capacité militaire sans pouvoir aligner en fait le personnel pour utiliser ces capacités. Donc l'utilisation de l'IA, l'utilisation des drones, ça devient vital pour le Japon pour vraiment monter en puissance.
La difficulté sera de financer ce budget de défense record étant donné la situation financière du Japon, confronté à une forte inflation, à un yen faible et à un endettement qui frise les 230% du PIB.
Les États-Unis ont irrité leurs partenaires européens en conviant le ministre russe au G20 Finance, tandis qu'une nouvelle fois l'attaque la nuit dernière a été massive en Ukraine, à coups de missiles balistiques et de drones de combat. Moscou a frappé la capitale Kiev et sa région, faisant au moins 12 morts, la plupart tués dans un dépôt des chemins de fer. La Russie assure ne viser que des cibles militaires, ce que démentent les autorités ukrainiennes. Loin des bombardements, séjour de rentrée scolaire en France, plus de 11 millions d'enfants retournent en classe aujourd'hui. Une rentrée particulière pour les sinistrés des incendies qui ont ravagé le sud-ouest du pays cet été. Plus de 400 km² réduits en fumée. Dans la commune du Porge, village le plus touché de 3500 habitants, où plus de 180 maisons ont été détruites, cette rentrée annonce un semblant de retour à la normale. Reportage sur Juliette Pietrachet.
Ils reviennent parce que des fois il y a des reprises et on a dû un peu partir parce qu'on avait peur que ça rebrûle.
Avec ses mots d'enfant, Maïwenn, 10 ans, raconte son évacuation du Porge. À ses côtés, sa mère Audrey. on s'est auto-sauvé. Et c'est parce qu'on a vu les braises tomber dans le jardin, parce que il était là, il était, mais c'était apocalyptique.
Depuis leur retour à leur domicile, Audrey tente de répondre aux questions de ses enfants, une tâche compliquée à l'image des événements vécus par la famille.
Pourquoi c'est arrivé? Donc on essaie de répondre avec les mots adaptés à leur âge, mais ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont bien vu que c'était sérieux. Et le chemin de l'école pour Mayouen n'est plus pareil, il n'y a plus la forêt, il n'y a plus les maisons qui étaient en bon état, là maintenant c'est des ruines, et c'est essentiel d'en parler.
Et pour Audrey, comme sa fille Mayouen, le retour à l'école est très bien vécu, notamment parce qu'elle va faciliter le dialogue.
Bah oui, parce que je vais voir toutes mes copines, parce qu'il y en a une, elle a perdu sa maison, et une, elle a perdu son cabanon.
Ils sont super contents de se retrouver, parce qu'ils ne se sont pas vus pendant l'été comme d'habitude, parce que ben, on a tous été évacués à droite, à gauche. C'est la normalité qui revient, c'est on calme le jeu, on n'est plus en alerte, etc. Ça s'est passé, ça fera partie de l'histoire, du demain. Mais on est tous là pour s'écouter et avancer pas à pas.
Une collecte de fournitures scolaires a été organisée pour les enfants des sinistrés. Des groupes de parole et une cellule psychologique ont aussi été mis en place. Juliette Pietraszewski, Le Porche RFI.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide. Et ne manquez pas ensuite RFI Midi, présenté par Anne Cantner.
Du 9 août au 13 septembre, découvrez Visa pour l'image, le Festival international du photojournalisme.
sees me, but it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here?
À la fraîche, décontracté du gland.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
Merci pour la bonne nouvelle.
Principe Actif, le mix des cultures.
Wait, did I?
chaise ki daba chail kuna ki daba chail kuna
la la
La story du type commence mal, mal. Patate de daron, daron. Bim, chaos dans une bagarre de bar. Réveil dans le salon d'un appart classe. Sur le carrelage, un canon et un cadavre. Le bad, bad trip, le gars flip normal. Il ne trouve plus son portable, ça va vite dans sa tête. Il se voit menotte au poignet. Et perpétuité, il se sent piégé. Il s'apprête à tailler quand
dans tout ce bazar, les pleurs d'un gosse retentissent. Ça vient de cette porte au fond du couloir numéro des triple 6. Une main sur la clenche, l'autre prête à clasher. De toute façon, y'a rien à perdre, personne voudra le relâcher. Et puis d'un coup, ding, demi-tour réglé. Ça sonne dans la cuisine avec odeur de rôti trop cuit. Un type gît la tête dans le four, ça fait comme une starlette. Poignée gauche menottée à une mallette, donc
ça sent le roussi. Sombre scénario d'un film gore thriller policier, digne de Tarantino. Sauf que ce coup-ci, les corps gisent, les balles sont bien réelles. Lui encore en sursis, si on le trouve là, c'est la merde. Il vomit, se demande qui a commis ses crimes, mais aussi qui sont les victimes. Et pourquoi lui, pourquoi ici, et surtout pourquoi sur la table une seringue et une scie.
Plus le temps de cogiter, maintenant il faut agir vite. Le môme est en danger, il faut le sortir tout de suite. Il fonce vers la porte,
c'est fermé.
Putain la poisse, après tout qu'il se démerde. Je le connais pas, voilà ce qu'il pense. Mais ça lui revient comme un flash, la clé est dans la tâche équelle.
Chope la scie,
coupe le bras du lascar qui n'était que braise. Dans la mallette, une clé, une enveloppe à son nom. Il ouvre la porte, la voix du môme, un enregistrement.
Il se dit, quelqu'un se joue de moi. C'est une caméra cachée ou quoi, on se fout de ma gueule. Je me casse, ou bien je fais l'acteur. Il se tâte, puis décide de lire le message. Vous avez réussi la première épreuve. Prochaine étape, plantez-vous la seringue dans le cœur. Injectez-vous le produit, c'est le seul moyen de sortie. PS, méfiez-vous des zombies.
Il m'en prie pour un ouf dans un délire morbide. Impossible que j'obéisse, quitte à crever ici. Je saisis la seringue remplie du liquide jaunâtre. La vie d'un même le sol. Je suis pas le dernier des connards. J'envoie la table, valser dans la pièce en marchant sur le tapis. Plus rien sous mes semelles, commence une chute. Elle paraît éternelle, absorbée dans un tunnel sombre et étroit. Je me nique à gauche, à droite.
Je me réveille dans une pièce sombre et vide lorsqu'une voix retentit. Vous auriez dû vous injecter l'antidote, vous êtes fini. Préparez-vous, une porte va s'ouvrir, arriveront des zombies. L'un d'eux possède un plan précis et les clés vers la sortie. J'arrête pas de me demander ce que je fais dans ce trou. Dans ma tête tout est flou, j'en deviens presque fou. Mais ils arrivent, la seule arme que j'ai c'est la scie. Que dois-je faire? Me battre pour sortir d'ici?
La porte s'entrouvre, je les entends gémir. Et là quelque chose d'évangélique. En un instant Jenny repère une vanne et l'ouvre. J'y libère un des gars des eaux qui emporte les occupants de la pièce. Je décale les sauts, slalom entre les corps. Récupère les clés, le plan c'est les pieds devant. Je dois me défaire de ce décor. J'ai l'un des seins qui m'indique une trappe au plafond. Un aller simple au bout d'une pique, un drapeau plaque.
Yes, yes, il le passe en espérant que ça y est, fini. Grosse farce ou expérience alien, fini. Le cauchemar, il était temps que ça s'arrête. Le délire est pas net, c'est fini, il s'évade. Dernier couloir, devine la blague. Il tombe sur un cul-de-sac et le type du bar. La story finit, al, al, bim, chaos, yeah. Réveil dans un lit d'hôpital.
Oula, non, 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 vous levez pas tout de suite, hein. Il faut y aller doucement. Ça fait 3 jours que vous êtes à l'hôpital, vous avez pris un mauvais coup, il faut rester tranquille.
Peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau.
courant pour cette nouvelle radio. Une radio que personne ne connaît, qui surgit de nulle part. Vous trouvez pas ça bizarre ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
It's great to be back home. Home is where I wanna be. I've been on the road so long, my friend. And if you came along, I know you couldn't disagree. It's the same old story.